C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
Nous serons amoureux, évidemment, le moins qu'on puisse, et pas toujours en silence, pénible, envahissant et indigne.
Regard intime. Nous vous proposons maintenant d'écouter le numéro 4 de Regard intime, un entretien avec Thomas Joly.
Bonjour, je suis en compagnie de Thomas Joly qui est au Célestin en ce moment à l'affiche en cette mi-mai avec Richard III, donc son spectacle qui met en scène à la suite d'Henri VI avec la Piccola Familia. Bonjour Thomas Joly.
Bonjour Raphaël.
Alors d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de cette compagnie qui est la vôtre, la Piccola Familia, et qui est assez particulière dans le paysage théâtral français, puisque il me semble que voilà, vous créez une grande famille théâtrale qui comprend et qui met, j'ai l'impression, au même plan les techniciens, les dramaturges, enfin tout le monde, voilà, mm-hmm. Les comédiens. Et ça, voilà, j'aimerais que vous nous parliez du projet de cette compagnie.
Ben oui, la Piccola Familia, déjà ça veut dire la petite famille, et en même temps, tu as raison, on est déjà une grande famille, puisqu'aujourd'hui, je crois cette saison, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans la Piccola Familia, la Piccola, comme on dit entre nous. Oui, effectivement, des acteurs, des actrices, mais aussi des régisseurs, des techniciens, des techniciennes, des créateurs lumière, son, costumes, accessoires, machinistes... et aussi le corps administratif, administratrice, chargée de production, de communication et pour les actions culturelles. Tout ça, effectivement, c'est une équipe qui défend le même projet d'un théâtre populaire et exigeant, parce que ça n'est pas antinomique, c'est même constitutif à mes yeux, enfin à nos yeux. Populaire exigeant, intelligent aussi bien sûr, hein, mais festif surtout, aussi festif. La Piccola Familia a été créée en 2006, donc en fait cette année notre 10e saison. J'ai toujours pensé que un metteur en scène était surtout un acteur qui, enfin, en tout cas c'est comme ça que je me définis, je suis plutôt un acteur qui en fait jouer d'autres. Donc oui, je suis le directeur artistique de la Piccola Familia, mais c'est plutôt, sans être un collectif, vraiment une démarche pour le coup collective, au sens où je ne suis pas le metteur en scène des murges qui sort et tout et qui demanderait aux autres d'être des exécutants. Au contraire, je mets tous les savoirs, tous les talents, toutes les capacités au service d'une œuvre. Là, en l'occurrence, Richard III, mais il y a eu Henri VI, il y a Le Quin poli par l'amour aussi, qui tourne toujours en ce moment. Et voilà un petit peu l'esprit, en gros, de cette compagnie. Sur cette équipe de Richard III, on est une trentaine. En tournée, parce que sur la création on devait être une quarantaine, mais ne nous suivent pas les dramaturges, ne nous suivent pas certains assistants, les créatrices des costumes, les créateurs costumes ne nous suivent pas non plus. C'est pas la même équipe en tournée qu'au moment de la création. Mais voilà, là il y a une trentaine de personnes, et puis on finit cette tournée bientôt, puisque là nous sommes à Lyon la semaine prochaine à Quimper, et puis on reprendra maintenant la saison prochaine.
Bon, très bien. Donc on va commencer, on va parler du coup de ce Richard III, et que vous avez créé l'année dernière.
En octobre 2015, oui.
Et donc, tout d'abord, je voudrais vous poser une question banale, que tout le monde te pose. Et peut-être pour nos auditeurs, rappeler donc, que tu as choisi, avant de monter Richard III, que tu as choisi de monter Henri VI, qui est une œuvre absolument colossale et qui est la suite aussi de nombreuses tragédies historiques que peut-être tu montreras par la suite.
Qui sait ?
Et donc voilà, que c'est, ça s'inscrit vraiment dans un projet de continuité. Voilà, on rappelle en 2012 c'était Henri VI qui avait été monté à la suite de quoi, 5 ans de travail.
On a démarré Henri VI en 2010. En 2012, Henri VI, il faut rappeler quand même que c'est 3 pièces de William Shakespeare, donc c'est 15 actes. Et effectivement, les 3 pièces d'Henri VI et Richard III forment ce qu'on appelle une tétralogie. La deuxième, puisqu'on peut même monter la première tétralogie qui regroupe les 4 pièces que sont Richard II, Henri IV et Henri V. On pourrait même s'amuser à monter les 8 pièces d'affilée, parce qu'elles se suivent toutes. Richard II, les 2 Henri IV, Henri V, les 3 Henri VI et Richard III. Pourquoi pas ? Et moi, je me suis plutôt concentré sur cette deuxième tétralogie. Donc, j'ai démarré le travail au départ en me disant, je monte les trois Henri VI et Richard III, et on a démarré en février 2010. En janvier 2012, sont sortis une pièce et demie, enfin, une pièce et demie d'Henri VI, ça durait déjà 8 heures. En juillet 2014, on avait abouti le travail au Festival d'Avignon, le spectacle durait 18 heures, les trois Henri VI. Et en octobre 2015, on a lancé Richard III. Donc aujourd'hui, on pourrait tout jouer à la suite et ça durerait en gros 24 heures. Mais pour l'instant, c'est difficile de trouver un théâtre qui permettrait de jouer les quatre à la suite.
Alors oui, alors je voudrais savoir ce que ces pièces pourraient avoir de particulier pour toi, parce qu'elles traduisent avant tout, il me semble, la violence d'une époque. Peut-être une époque qui est encore la nôtre. Qu'est-ce que t'en penses?
Peut-être pas encore la nôtre, mais peut-être à nouveau. C'est-à-dire que le règne d'Henri VI et celui de Richard III, ces quatre pièces brassent à peu près tout le XVe siècle. Le XVe siècle en Angleterre, mais pas qu'en Angleterre, mais est un siècle troublé. C'est le siècle où on va découvrir qu'il y a un autre continent, l'Amérique. C'est le siècle où on va découvrir que la Terre n'est pas plate mais ronde. C'est l'invention de l'imprimerie, la traduction de la Bible, donc du protestantisme, donc une révolution au niveau de la religion. C'est le moment où on comprend que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais le Soleil. C'est le moment où on invente les armes à feu. C'est le moment où on invente les relais postaux. Alors ça a l'air de rien, mais ça va changer radicalement la manière de communiquer de ville à ville. Bref, c'est une période troublée avec beaucoup de remises en question, et à ce moment-là, effectivement, est assis sur le trône cet Henri VI qui va faire les frais un peu de toutes ces bouleversements à tous les niveaux. Et Richard III, qui arrive derrière Henri VI, n'est simplement qu'un personnage qui va profiter d'un état donc de crise, hein, clairement, un état d'angoisse pour prospérer. Nourrir et alimenter un climat délétère pour pouvoir s'en servir comme marchepied pour accéder au trône. À ce titre, à plusieurs égards, effectivement, ça peut ressembler à notre époque, au sens où je crois que nous sommes en train de vivre une espèce de nouveau cycle, enfin en tout cas une période troublée avec des inventions qui remettent beaucoup de choses en cause, qui bouleversent les rapports, qui bouleversent les choses acquises, et que on le voit bien en ce moment même, par exemple avec les mouvements de Nuit Debout, mais avec aussi tous les mouvements sociaux et tout ce qui se passe en ce moment en France, que nous sommes en train de chercher, et que ça peut paraître difficile de trouver un nouvel équilibre aujourd'hui. À cet endroit-là, je crois que Shakespeare est très éclairant, c'est-à-dire que quand on traverse un moment de crise, évidemment que la pire des choses à faire, c'est l'individualisme, c'est le repli sur soi, mais c'est là aussi que naissent les violences, c'est là aussi que naissent les replis identitaires, racisme, etc. Et Shakespeare nous brosse le portrait d'une société qui tombe et qui fait asseoir sur son trône un monstre. Voilà pourquoi j'avais envie de monter ces pièces, pour éviter de reproduire cet exemple-là ici même aujourd'hui.
Et donc, votre mise en scène a quand même quelque chose de particulier, c'est qu'elle monte vraiment l'intégralité des pièces, chose qui est assez rare en fait dans le travail que font les metteurs en scène sur Shakespeare, puisque généralement voilà, il s'agit soit d'une adaptation, soit voilà, d'une traduction, mais enfin, on pense au dernier Roi Lear d'Olivier Py, qui est quand même une traduction assez piesque, quoi. Là vraiment vous semblez quand même respecter ces tragédies shakespeariennes et jusqu'à représenter dans le cas de Richard III des scènes voilà, qu'on a peu l'habitude de voir, notamment la figure de Richard comme père qui perd son fils. Voilà, quelle importance ça a de monter ces textes entièrement, de pas les tronquer, de pas...
Alors moi je suis plutôt partisan de, quand on dit qu'on monte Henri VI ou Richard III de William Shakespeare, de monter Richard III et Henri VI de William Shakespeare, pas d'après William Shakespeare, pas adapté de William Shakespeare, mais de se coltiner la matière dans son intégralité. On m'a dit évidemment au moment du début d'Henri VI qu'il faut que tu coupes, il faut que tu adaptes, qu'il fasse une chose qui soit un petit peu plus, qui rentre un peu plus dans les cases et tout ça. Personne ne viendra jamais voir un spectacle de 18 heures, etc., etc. Et moi je ne voulais pas couper. Pourquoi ? Parce que Shakespeare il nous brosse le portrait d'une société entière, c'est-à-dire à la fois des seigneurs, des rois, mais aussi du peuple, mais aussi de toutes les catégories sociales qui sont touchées à différents endroits, mais tous touchés par la même crise ou les mêmes états délétères. Et je voulais mettre en relief tout ça. D'autre part, je croyais, maintenant j'en suis sûr, que la question de la durée de la représentation pouvait permettre de redonner au théâtre une de ses facultés, je dirais, de rassemblement, de vivre ensemble. Il ne faut pas oublier que le théâtre, à l'époque antique, c'était des semaines entières consacrées au théâtre et au sport, où la cité entière se réunissait, où toute activité cessait pour se consacrer au théâtre et au sport en tant que spectateur. Donc ça a bien changé. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon modèle. Mais la durée au théâtre permet de vivre une expérience nouvelle et vraiment quelque chose qui ressemble davantage au vivre ensemble. Donc je n'ai pas voulu couper pour ces raisons-là. Et effectivement, quand on ne coupe pas, eh bien, on arrive à d'autres aspects de la pièce qui me semblent absolument intéressants. Et quand, pour rebondir sur la question de la paternité de Richard, Richard III n'est pas un homme qui souhaite simplement avoir la couronne et tue tout le monde sur son passage pour l'avoir. Son projet est bien plus intéressant que ça. Son projet est de générer une lignée de rois. C'est ça, son vrai projet. Mais comme son fils meurt prématurément, et ça c'est écrit dans la pièce, et ça, ça se vérifie aussi historiquement, puisque Richard III et Lady Anne ont eu un enfant qui est mort assez jeune, et bien puisqu'il n'arrive pas à générer une lignée de rois, et bien alors il est obligé de massacrer tout ce qu'il va pouvoir, il le dit d'ailleurs, car la nécessité s'impose à moi de bloquer tous les espoirs dont la croissance peut me nuire, c'est-à-dire tuer ses neveux, se marier avec sa nièce, et tuer tout ce qui pourrait, déstabiliser son assise. Voilà en quoi il me semble que monter Richard III dans son intégralité le rend à mon avis plus intéressant, plus complexe aussi, et moins caricatural, parce que c'est un peu le problème que je trouve avec ce personnage, c'est que oui, le gros méchant qui tue tout le monde pour avoir la couronne, c'est pas que ça l'histoire de Richard III.
Et justement, pour en venir plus profondément à ce personnage, donc il faut bien sûr dire que vous occupez le rôle titre, le rôle de Richard, duc de Gloucester, c'est ça. Et donc, je voulais revenir sur votre interprétation de Richard, parce qu'évidemment, tout le monde parle, et quand on lit certains qui parlent de votre spectacle, on dit « Ah, comment on va pouvoir oublier Lars Heidegger qu'il a monté avec Sturmeyer cet été ?» Et moi, je trouve que on a deux travaux complètement différents. Et vous rajoutez quand même à votre personnage une certaine douceur assez hallucinante, assez étrange, je trouve. Et comme si à chaque fois il étouffait la violence en lui, comme si finalement il portait lui-même son propre deuil. Et justement, pas qu'il voulait faire du mal aux autres, mais que lui-même se faisait du mal. D'ailleurs, c'est une dimension que vous avez assez soulignée dans l'interprétation de la dernière scène qui était très intéressante et justement pas spectaculaire comme elle est dans la plupart, notamment dans la mise en scène de Sturmeyer. Et donc voilà, moi je me demandais, vous suivez, je pense, en cela vraiment Shakespeare, cette idée de déconstruire presque l'idée de vengeance, l'idée de la démesure tragique, l'hubris. Est-ce que dans votre interprétation, vous avez vraiment voulu finalement presque déconstruire la tragédie?
En fait, je suis reparti... justement, au contraire, je crois que la tragédie, si on reprend sa définition originelle, qui est que chacun des parties prie en lui-même à la justice pour lui, ça c'est la définition de la tragédie, eh bien, il faut trouver en tant qu'acteur la justice de Richard. Mais il répond à une forme de justice. Et cette justice-là, elle est formulée dans Henri VI. Parce qu'encore une fois, Richard III, quand la pièce démarre, on est... déjà lancé dans une action qui a démarré depuis bien longtemps, depuis plusieurs années, puisque le personnage apparaît dès la deuxième partie d'Henri VI, c'est donc très très tôt, mais c'est au milieu de la troisième partie d'Henri VI que, apprenant qu'il ne pourrait pas se marier avec Lady Anne, à laquelle il était promis, car historiquement il a été dit que Lady Anne et Richard ont grandi ensemble, ils étaient amis d'enfance et promis l'un à l'autre. Donc quand il apprend que Lady Anne est donnée au prince Édouard par stratégie, on va dire, de partisane des camps York et Lancastre, ça c'est un premier deuil qu'il doit faire. Le deuxième, c'est que quand son père meurt, York, le duc d'York, qui était le seul rempart un peu à toutes les moqueries dont il était victime du fait de sa différence physique, quand son père meurt, il se retrouve donc sans rempart face à ça. Et à force d'être rejeté de l'humanité, il va décider lui-même de s'en extraire. En cela, Shakespeare reprend un procédé très proche de celui de Sénèque, qui est le dolor furor nefas, c'est-à-dire que la douleur d'être rejeté va se transformer en colère. Il va donc se rejeter lui-même de l'humanité et accomplir un acte qui va le sortir de l'humanité. C'est a priori le crime de ses neveux innocents. Excusez-moi. Donc, si vous voulez, au moment où on démarre Richard III, ça fait bien longtemps que son projet est conçu. Richard dit qu'il n'a ni pitié, ni crainte, ni amour. Ça, c'est un point de départ aussi qui est dit dans ici. C'est un personnage qui pense ne pas avoir tout ça. Or, toute la pièce va lui démontrer qu'il a l'amour, et Diane, qu'il a la crainte à la fin. Il va avoir peur des fantômes, etc., etc. Il dit d'ailleurs « j'ai peur, j'ai peur ». Et la pitié avec sa mère, il va avoir la pitié, il va ressentir cette pitié-là. Donc en fait, pour moi, Richard III est finalement un aller-retour. C'est-à-dire que c'est un garçon qui s'extrait de l'humanité parce qu'il en est rejeté, mais finalement qui y retourne et qui se découvre lui-même bien plus humain qu'il ne pense l'être. Et qui fait l'expérience de sa propre conscience. En fait, l'éveil de la conscience chez lui, chez Richard, la conscience intime. Et donc, cette vision-là, à partir du moment où on reprend le personnage depuis Henri VI, elle est forcément différente. J'ai pas vu l'interprétation de Lars Eidinger, je me suis pas trop intéressé en fait aux autres Richard III, il y en a d'autres aussi en ce moment, mais parce que j'étais concentré ma ligne à moi. Mais je sais que les projets sont forcément différents, puisque nous autres, dans la Piccola Familia, on a vraiment tracé la ligne entière de tous ces personnages, puisqu'il n'y a pas que Richard, hein, Marguerite aussi, on pourrait en parler, Édouard, son frère, Clarence, son autre frère. Donc c'est vraiment une continuité. En cela, je crois qu'on peut arriver à une forme de nouvelle... c'est pas une nouvelle d'ailleurs, c'est celle qui est écrite dans la pièce de ce qu'est Richard III. Et moins dans la caricature, et moins dans dans la réduction, moins mais davantage dans la question de la narration et du récit que Shakespeare nous pose depuis le début d'Henri VI. Je dirais ça.
Et vous, je voulais en revenir justement à cette difformité que tu as évoquée rapidement. Le costume qui est très intéressant et qui a été créé par un taxidermiste. C'est très drôle d'ailleurs dans le programme, parce qu'on voit écrit parure animale et en face le nom de...
Ouais, Sylvain Wavran, qui est artiste styliste, hein, et qui travaille à partir de la taxidermie, oui, tout à fait.
Et donc moi je me demandais quand même cette monstruosité rajoutée à une monstruosité, parce que quand on voit le costume de près, on voit des têtes d'oiseaux, ce qu'on ne voit pas quand on est dans la salle. Je me demandais quand même montrer le personnage... En tout cas, avec un costume, le costume ne fait pas le personnage, évidemment, mais si ce n'était pas quand même une manière de tomber, finalement, pour montrer que c'était un rapace, peut-être une créature mythique, presque.
Oui, et c'est... davantage que mythique, elle est en fait... Alors, la question du costume de Richard, on l'a travaillé à partir d'abord, des représentations du démon ou du diable au Moyen-Âge, hein, parce qu'on n'oublie pas que c'est une pièce baroque, et que donc toutes les caractéristiques qui sont dites dans la pièce autour de Richard font beaucoup référence à cette imagerie-là médiévale, hein, du démon, du malin, du diable. La deuxième chose, c'est qu'on a juste relevé dans la pièce tout ce qui était dit sur Richard physiquement, et que tout a rapport à l'animalité, à l'animal, au végétal et au minéral. Donc sur mes costumes, il y a effectivement des têtes d'oiseaux, des griffes, des plumes, des poils, des plantes, des morceaux de bois, des morceaux de corail, des coquillages, enfin voilà, des choses comme une espèce de concrétion de la nature qu'il aurait sur le dos pour la bosse. Et puis après, moi je me suis aussi inspiré, mais ça c'est plus mes goûts, des dieux psychopompes dans l'imagerie japonaise qu'on peut voir par exemple dans Death Note, le Shinigami dans Death Note, qui est aussi une source d'inspiration. Mais ça, c'est davantage un goût personnel, et c'est moins ça qui nous a guidés que les deux premiers points. L'autre chose, c'est que Richard est très important, très puissant dans le monde dans lequel il évolue. Il est le frère du roi, il est le protecteur du royaume, c'est-à-dire quand même le deuxième plus puissant du royaume après le roi. Il est un chef de guerre reconnu et craint. Il est riche. Donc on ne peut pas faire de Richard un vilain petit canard, Quasimodo, dans un coin, moche, puant, clochard. On ne peut pas faire de Richard ça. D'ailleurs, il le dit lui-même, il fait appel à 40 tailleurs pour lui faire sur mesure des costumes à l'image de sa difformité, pour sa difformité. Donc Richard, non seulement est blindé de thunes, respecté, craint, puissant, mais en plus il est super bien looké. Ça, c'est écrit dans la pièce. Et c'est encore une chose qu'on ne voit pas si souvent. On voit davantage un Quasimodo, une espèce de renégat comme ça, dans un coin du château que tout le monde craint, qui purait, j'en sais quoi. Non, pas du tout. Il est au centre, c'est bien ça qui est le problème. Il est au centre du château, il est au centre du pouvoir, il a les attributs du pouvoir, du luxe, et en plus, il a du style. Il y a des tailleurs qui travaillent pour lui. Donc tout ça a généré les costumes, et le dernier costume qui est le costume rouge et blanc, c'est parce que son blason, à Richard, une fois qu'il est roi, est le sanglier à cornes, albinos à cornes dorées. Donc, reprenant en fait ses armoiries, on a travaillé sur ce costume-là en rouge et blanc, et c'est aussi pour ça qu'il y a à un moment donné cette bête, ce sanglier, qui est son emblème en fait, qui vient avec lui.
Mais qui est aussi le mauvais présage.
Qui est aussi une bête, de toute façon, le sanglier porte avec lui aussi une imagerie d'animal fou, qui fouisseur, enfin, qui est violent, sauvage, meurtrier et puis dangereux aussi. Mais c'était déjà l'emblème de son père. Lui, il y a rajouté l'albinos aux yeux rouges, enfin le blanc aux yeux rouges et aux cornes dorées. Voilà, c'est ça qu'il a rajouté. Et c'est pour ça que les costumes ont été en fait travaillés par rapport finalement à beaucoup, encore une fois, à ce qui est écrit dans le texte et ce qui était Richard III dans l'histoire.
Donc pour cette mise en scène, vous avez effectué un vrai travail avec toute la troupe sur le travail historique, avant tout.
C'est toujours le même travail, c'est-à-dire que moi je me base, je pars du principe que je n'ai pas d'idée. Comme ça, on parle vraiment de la recherche dans l'étude de l'histoire, l'étude de la dramaturgie, l'étude du contexte dans lequel il écrit, l'étude aussi, il ne faut pas oublier que Richard III est une pièce qui est écrite à partir de chroniques historiques commandées par les Tudors qui viennent d'arriver au pouvoir, et donc ce sont des chroniques et les premières de l'histoire d'Angleterre qui sont très dirigées, très finalement de propagande tudorienne. Shakespeare, qui n'est pas un auteur militant, mais prend ces chroniques-là et écrit cette fable, cette fiction, parce qu'en plus on a bien vu que Richard, on a retrouvé son squelette il y a quelques années, Richard n'était ni bossu, il n'avait pas de bras atrophiés, il n'avait pas de jambes plus courtes que l'autre, il avait une scoliose visiblement, mais il n'était pas monstrueux, on a refait son visage, il n'avait rien de monstrueux, Richard. En plus, apparemment, ça aurait été plutôt un bon roi. Mais à l'époque, on avait besoin de casser l'image des York pour asseoir l'image des Tudors. Et donc la fiction, aujourd'hui, a carrément dépassé la réalité, en fait. Enfin, ça a été une belle entreprise, puisqu'aujourd'hui, tout le monde pense que Richard III était un monstre, etc. Mais c'est pas du tout vrai. Mais bon, la pièce raconte ça. Donc il y a ça aussi, il y a tout ce contexte-là, ce frottement avec la réalité. J'ai pu lire ici et là que je m'étais inspiré de Star Wars, de Freddie Mercury ou autre Lady Gaga. Non, je crois que je n'ai pas passé 7 ans de ma vie à travailler avec des dramaturges, avec des traducteurs pour la Pléiade, qui est pas une édition inconnue, travailler avec des universitaires qui travaillent sur Shakespeare depuis même avant que je sois né, avec d'éminents spécialistes de la Société Shakespeare française avec qui je travaille et je participe à leurs colloques, etc. J'ai travaillé avec ces gens-là depuis 7 ans. J'ai pas travaillé en regardant Star Wars, certainement pas. Ça s'appelle de la malhonnêteté, ça.
On s'en doutait de toute manière. Enfin, moi, en tout cas, vous me comprenez. Alors justement, parce que peut-être on va parler de ce qui peut faire dire aux gens tout ça, justement. Et la chanson qui est au milieu, ouais, au milieu de Richard, mm-hmm, et qui est en fait une infime partie du spectacle.
Oui.
Et voilà, qui est interprétée au milieu de la pièce. Alors vous la chanterez, on mettra un extrait à nos auditeurs pour qu'ils puissent un peu entendre le morceau. Et donc c'est une chanson que je trouve très étrange, parce que c'est Richard qui exalterait lui-même sa monstruosité, mm-hmm, en chantant du hard metal. C'est pas vraiment du hard metal, je suis pas très spécialiste de cette musique, mais moi je me demandais quand même si c'était une réécriture de... Les paroles, elles sont dans le texte de Shakespeare, il me semble.
Les paroles sont toutes de Shakespeare.
Oui, voilà.
Ce sont des vers issus d'Henri VI et de Richard III. Et quand on les met bout à bout, en fait, effectivement, Richard s'étonne lui-même, monstrueux comme il est, criminel, etc., d'arriver si facilement, c'est quand même la vraie question à se poser, d'être un criminel et d'arriver si facilement au plus haut lieu du pouvoir. En fait, cette chanson ne sert qu'à ça. Il s'étonne lui-même et il dévoie du coup l'organe politique en mettant cette chanson-là en scène et en se surprenant, en étant surpris de cette facilité.
I have no brother, I am like no brother. I that have neither pity, love, nor fear. Oh Jesus, bless us, I was born with teeth. Down, down, down to heaven, say I send thee here. To take is not to give. 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 I'm seeing heaven, what a world is this? Who is so gross that cannot say this?
Palpable device, palpable device.
Guess who's so bold but says this is it not? But it's the world that none will come to now. I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog. A far stigmatic, these are dreadful stings.
I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog.
A bug and spider, I am a monster.
I bless it down, I bless the crown down.
Si on regarde bien la scène qui précède, c'est la scène qu'on appelle Crosby House, où il fait venir les citoyens devant chez lui et où il monte tout un stratagème de mensonges, de théâtre, hein, pour le coup, avec ses compères, et il ment aux citoyens qui, du coup, lui demandent quasiment d'être le roi. C'est aberrant, hein, mais il y arrive. il y a une chose chez Shakespeare que les metteurs en scène contemporains et les spectateurs contemporains sont surpris de ça, c'est l'interactivité du théâtre shakespearien. L'interactivité avec le public chez Shakespeare n'est pas une lubie d'un jeune metteur en scène que je serais, est écrite, encore une fois, dans la pièce, dans la toute première didascalie d'Henri VI, dit entre le duc de Gloucester, le duc d'Exeter, le duc de Bedford, le cardinal de Winchester et tout le peuple de Londres. Évidemment qu'il n'y avait pas des figurants par milliers sur la scène du Globe qui est toute petite, et donc le peuple de Londres, c'est évidemment le public présent londonien de l'époque qui assistait à la représentation. J'ai moi-même assisté à la représentation au Globe d'Henri IV et je peux vraiment vous dire que nous faisons corps avec la représentation. Le public est vraiment fait partie intégrante de la représentation. Donc cette scène de Crosby House se joue avec le public, et évidemment cette scène aussi a fait couler beaucoup d'encre, mais nous ne nous amusons pas à manipuler le public. Nous démontrons la manipulation que fait Richard sur les citoyens incarnés pour le coup par le public. Et je suis quasi certain que Shakespeare avait fait la même chose avec le public en place à ce moment-là. J'en suis tellement sûr qu'il y a même une réplique qui dit que si jamais il y a des huées, il y en a tous les soirs, et d'ailleurs il y a des gens qui me huent parce qu'évidemment on ne peut pas adouber un garçon si criminel, odieux, infâme, menteur, vil, etc. Donc il y a une réplique qui dit, mais attendez, si vous me médisez et en même temps vous me condamnez, il y a déjà une réplique en fait écrite pour contrer les huées possibles, et que je dis tous les soirs parce que je me fais huer tous les soirs. Donc on joue de ça pour mettre le spectateur certes à un endroit inconfortable, qui est à la fois mince d'acclamer un tyran et en même temps d'être conscient qu'il est tyran, et donc cette chanson qui arrive juste derrière était en fait la continuité contemporaine de cette scène où aujourd'hui, par rapport à un grand meeting politique avec forces effets, forces lumière, forces son, forces mise en scène, forces manipulation, en tout cas stratégie médiatique, en gros, on fait la même chose. Clairement, Richard III est une pièce qui démonte un mécanisme d'ascension politique, en fait. Il met à jour un mécanisme d'ascension politique. Alors à l'époque, il n'y avait pas de médias, mais il y avait le mensonge déjà. La manipulation, le mensonge, la rumeur. Voilà. Et donc la chanson sert à ça, sert à faire un grand meeting politique creux, qui n'est que de la mise en scène, que de l'effet, que du. Même si les paroles racontent quand même quelque chose, pour dénoncer, encore une fois, cette ascension scélérate.
Donc oui, il ne faut absolument pas, du coup, qualifier la mise en scène de punk.
Merci. Bien que punk soit un mot... punk est quand même déjà un mot, en fait, qui apparaît chez Shakespeare dans, je ne sais plus, Mesure pour mesure, ou Tout est bien qui finit bien, je crois. Mais punk, non, ni punk, ni opéra rock, ni tout ça. Ce n'est pas parce qu'on a des maquillages blancs qu'on est gothique. Oui, je disais, c'est pas parce qu'on a des maquillages blancs qu'on est gothique. Hein, le maquillage blanc existe depuis bien longtemps dans le théâtre. Bon, voilà. C'est pas parce qu'on a 3 minutes de chansons un peu rock, un peu techno-rock, je sais pas trop comment, électro-techno-rock, qu'on a fait un opéra rock. C'est pas parce qu'on utilise des lumières qui bougent que nous faisons un show télévisé non plus. Enfin voilà, c'est simplement des outils qui me semblaient cohérents à d'utiliser pour mettre en scène ce propos-là, et dramaturgiquement qui sont tous défendables.
Et donc justement, on va comparer à la mise en scène d'Henri VI, où pour le coup les effets lumière et son étaient encore plus spectaculaires, parce que peut-être aussi nécessaire pour ne pas endormir le spectateur
d'Henri VI
pour l'éveiller après 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 de spectacle. Mais disons que voilà, il me semblait quand même que ce Richard III était beaucoup plus minimaliste, et que le drame semblait prendre plus d'importance que vraiment les effets même du drame. Parce qu'Henri VI, voilà, c'était une arène de guerre, mais publique, aux yeux de tous. Alors que voilà, la dimension, je trouve, d'Henri Char, qui est intéressante et que vous avez quand même essayé de traiter. Enfin, tu vas me dire du coup comment tu vois la chose, mais il me semblait que c'était plus voilà, intime. Plus, bah, du coup, il s'agit vraiment d'une intrigue de palais, en fait.
Tout à fait.
Où on n'a pas accès au monde, où c'est vraiment le monde de Richard en fait. C'est Richard qui monte sa pièce.
Exactement. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est beaucoup moins épique. Et d'ailleurs, si on regarde depuis le début d'Henri VI, il y a une forme de concentration du conflit. Au début d'Henri VI, le conflit est sur les deux royaumes, celui de France et celui d'Angleterre. Donc on n'arrête pas de faire des allers-retours. Ensuite, dans Henri VI toujours, le conflit se resserre sur un seul royaume et c'est la guerre civile des deux roses avec deux grands camps que sont, entre guillemets, les Lancastre et les York. Ensuite, le conflit va se resserrer sur une seule famille, les York, puis une seule fratrie, puis enfin, dans Richard III, un seul être. Parce qu'à la fin, la phrase de Richard, il est en conflit, il dit quoi, ai-je peur de moi-même, hélas j'aime moi-même, non je me déteste plutôt, quoi me fuir moi-même, pour quelle raison j'ai de peur que je me venge, quoi moi-même de moi-même, enfin voilà, il est en fait en conflit avec lui-même, avec ce qu'il est dans son essence. Donc effectivement c'est un resserrement comme ça assez subtil hein, de la part de Shakespeare tout au long des Henri VI et on arrive évidemment dans Richard III dans une concentration intime, vous avez raison, et ce n'est qu'une pièce qui se passe au même endroit, dans un palais, avec quelques petites scènes dans d'autres lieux londoniens, mais en gros, on est vraiment dans une intrigue de palais, vous avez raison, et à la fin, il y a juste une guerre qui n'est même pas traitée en plus par Shakespeare, qui est juste une didascalie, donc nous, on a fait un tout petit, un tableau assez rapide, alors que dans Henri VI, les guerres sont déployées, elles durent 20, 25 minutes, etc. Là, non, c'est pas l'intérêt n'est pas l'épique du tout, mais bien, oui, vous avez raison, l'intime, et ça suit le resserrement dramaturgique que Shakespeare opère tout au long de cette tétralogie.
Et donc justement les lumières et l'univers sonore qui sont quand même assez intriqués du coup créent des espaces qui me semblent assez définis, des lieux intimes comme je l'ai déjà dit, mais il y a quelque chose qui me paraît assez étrange dans la manière dont c'est fait. On a l'impression que c'est anxiogène. Est-ce que c'est fait exprès est-ce que du coup l'utilisation des machines, des lumières, des sons qu'on a l'habitude quand on le voit dans ce type de dispositif, souvent c'est anxiogène, ça nous fait peur. Est-ce que c'était de les faire chercher ou pas du tout?
Alors, les projecteurs automatiques sont des projecteurs à LED. La LED est déjà une source de lumière froide, je dirais presque, qui n'est pas aussi brillante, aussi chaleureuse, aussi vive que les projecteurs plus traditionnels à incandescence. Donc déjà, il y a ça qui crée effectivement une atmosphère plutôt glacée. La deuxième chose, c'est que ces projecteurs automatiques ne sont pas là juste pour faire joli et faire des mouvements dans tous les sens, mais bien pour traduire, ce qui est déjà à l'œuvre d'Henri VI, parce qu'il y en avait déjà dans Henri VI, ça ne choquait personne à l'époque. Mais là, sur la phrase que dit Édouard IV, il dit qu'il a fait de la sécurité son marchepied pour accéder au trône. Cette sécurité est traduite, entre guillemets, par ces machines, ces robots, où le monde archaïque de l'ancien temps du Moyen-Âge a laissé place à un monde beaucoup plus industrialisé, avec beaucoup plus de machines, etc. Machines qui sont d'ailleurs au service de Richard, puisqu'il apprivoise. Voilà, il les apprivoise. Les improvise, rien à voir, il les apprivoise. Et donc oui, ces projecteurs, parce qu'ils bougent, parce qu'ils sont froids, créent un climat plutôt délétère, un climat plutôt angoissant. Oui, effectivement, c'était de retirer toute source de lumière qui pourrait être chaleureuse et pour vraiment traduire ce royaume exsangue, ce royaume traumatisé. On n'oublie pas que tous sont des monstres, hein. Il n'y a pas que Richard, tous ont du sang sur les mains, ou d'une manière directe ou indirecte, ils ont tous du sang sur les mains. Donc c'est aussi pour... c'est un royaume pourri, c'est un royaume qui est en paix, mais qui est déjà mort, en fait. Qui s'est tué dans toute l'histoire d'Henri VI, tous les conflits d'Henri VI l'ont dégénéré. C'est un royaume qui est forcément voué. C'est la fin d'un royaume en fait. C'est une espèce d'aube crépusculaire d'une fin de règne, la fin d'une époque. Quoi.
Et justement, cette esthétique un peu spectaculaire, les lumières, les sons, c'est peut-être pour ça aussi qu'on qu'on vous dit, enfin, qu'on peut vous dire que ça ressemble à Star Wars, mais moi j'aimerais ce coup savoir quels sont vraiment, quel est l'univers qui corrobore tout ça, qu'est-ce qui...
Une ligne dramaturgique que j'ai posée depuis le début dans Russie, c'est qui s'achève ici sur Richard III. Vraiment, au départ, on était sur le travail de la lumière, en tout cas, dans ces projecteurs dont je parlais, des projecteurs traditionnels, incandescence, des choses vraiment de bon vieux théâtre qu'on connaît bien, et que petit à petit on a retiré, d'ailleurs à vue, hein, toujours avec des projecteurs à vue pour exhiber cette machinerie de théâtre et ne jamais oublier qu'on est au théâtre et qu'il n'y a pas d'illusion possible. Hein, au Globe, le théâtre de Shakespeare en tout cas ne travaille pas du tout sur l'illusion, contrairement au théâtre français, c'est vraiment un théâtre de convention. Et donc ces projecteurs sont toujours à vue, ils sont remplacés petit à petit dans Moïse par ces projecteurs automatiques, et là dans Richard III ils sont tout puissants, c'est-à-dire que c'est eux qui occupent tout l'espace. Pour traduire, oui, cet univers, je dirais, qui est déshumanisé, dématérialisé, et en même temps où la lumière fait des parois, mais elles ne sont pas solides, tout ça est un monde, ouais, délétère, un monde, c'est pas pour faire de la science-fiction, c'est pour vraiment créer cette froideur, cet effet morbide aussi, et en plus de pouvoir travailler sur du noir et blanc, parce que Antoine Travers, qui a créé la lumière, et François Maillot ont réussi à parfois à faire quelques tableaux qui semblent être du noir et blanc, comme si la vie avait déserté, et à la fin il est dit quand même que Richard finit dans les gorges de la mort, hein, c'est ça qu'il dit dans le texte. Donc oui, on va petit à petit comme ça vers les gorges de la mort, et ça se finit dans les gorges de la mort.
Alors j'aimerais poser une dernière question par rapport donc à Arwissi et Richard III, sur le travail des comédiens quand même, qui est assez incroyable, hein, il faut le dire, parce que c'est un vrai travail sur les corps, le désordre délétère, justement toute cette atmosphère délétère, elle n'assiège pas les personnages à être même délétères. Parce que le texte est quand même très déprimant, très déprimé. On pourrait s'attendre à des gens qui roulent par terre, qui pleurent, qui... Non, enfin, on a un vrai moment de théâtre quand même, un vrai travail sur la douleur, sur la souffrance, sur l'horreur. Et moi, je me demandais vraiment comment on peut mêler comme ça la technique, donc le tremblement du comédien, du corps, de sa voix, avec le frétillement du son, de la lueur de la lumière, et tout ça, comment on fait c'est des dizaines d'années de travail.
Et puis c'est aussi une façon de travailler qui est tout le monde en même temps. Je ne travaille pas d'un côté avec les acteurs, et puis à la fin viendraient des projecteurs pour les éclairer, de la musique, et voilà. Tout est lancé en même temps, les costumes, le son, la lumière, les acteurs, les accessoires, le plateau, et tout le monde travaille en fait en continu. Alors ça ses vertus, c'est que tout avance en même temps. Ça aussi, c'est des avantages, c'est que c'est très très lourd, hein, parce que c'est comme un gros paquebot, tout voilà, c'est pas comme à l'opéra par exemple où les choses sont très très séparées. Là, le fait que tout le monde avance en même temps, du coup tout le monde travaille en même temps et tout le monde crée en même temps. Le créateur son travaille avec une réplique d'un acteur, et de même l'acteur va travailler avec ce son que lui a envoyé le créateur. L'éclairagiste va venir poser ce projecteur sur le visage de cet acteur là sur cette réplique là parce qu'il le sent, parce qu'il pense que c'est juste, et du coup l'acteur va travailler aussi avec ça. Bref, il y a une porosité entre tous ces éléments là et vous avez raison, tu as raison de dire que bien que ce soit un monde délétère, c'est quand même un fleuve bouillant de tourments. C'est-à-dire que Shakespeare, on ne peut pas jouer Shakespeare comme au café. Alors oui, on crie, oui, on pleure, oui, il y a aussi des fois où on se jette par terre, parce que il faut bien se rendre compte que ces personnages vivent des choses qui sont même pas mesurables pour nos esprits. En tout cas, je ne souhaite à personne de perdre à la fois son mari, ses deux enfants tués sous ses yeux quasiment. Enfin, je ne souhaite à personne. Et ça n'est que deuil sur deuil sur deuil. Il y a toutes les scènes, il y a quelqu'un qui meurt. Et il y a des gens qui en souffrent. Donc c'est un torrent comme ça de violence et d'assassinat qui se déverse sur les personnages, et que donc on ne peut pas jouer ça tranquillement, c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi que je travaille sans micro, enfin peu en tout cas, parce que je veux déployer la voix des acteurs et le corps des acteurs dans ce fleuve shakespearien. Je crois que le théâtre est un art de la vocifération, je le crois, et que oui, on peut travailler des choses très très subtiles avec les micros, et que le cinéma nous a fait montrer ça et c'est formidable, mais n'oublions pas que le quart de tour au théâtre pour un acteur existe que depuis 100 ans et que 2400 ans l'acteur a joué face publique avec une voix pleine, forte, et que le théâtre, en tout cas ce théâtre-là, vient aussi de cette façon de jouer là. Au théâtre du Globe, les gens rentraient, sortaient, mangeaient, forniquaient, buvaient, jetaient des trucs sur les acteurs. Enfin, on n'était pas dans le calme religieux d'une salle de théâtre tranquille et confortable aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc il y a tout ça qui est mêlé, mais en tout cas, c'est ce théâtre élisabétain-là, cette force-là, ce verbe-là qu'on a essayé de mettre en scène.
Et donc, on va vous retrouver cet été au Festival d'Avignon, donc dans deux créations. Alors, une que tu fais avec les élèves du TNS, c'est ça ? Et une avec la Piccola. Enfin, tu peux nous dire quelques mots sur
cet été à Avignon, je mets en scène, j'ai la chance de mettre en scène les élèves sortants du Théâtre National de Strasbourg. La promo 42 dans un texte de Georg Kaiser qui s'appelle Le Radeau de la Méduse, qui est une pièce que j'ai envie de monter depuis 15 ans. Rien à voir avec Le Radeau de la Méduse de Géricault, qui se base sur un fait divers qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, de 12 enfants qui se retrouvent perdus au milieu de l'Atlantique sur un canot de sauvetage. Et puis, le deuxième projet avec la Piccola Familia, cette fois, un projet collectif, pour le coup, pas une mise en scène de Thomas Jolini, mais bien une mise en scène collective, enfin, un projet pensé tous ensemble, qui s'appelle Le ciel, la nuit et la pierre glorieuse, qui retrace en fait les 70 éditions, puisque c'est la 70e cette année, anniversaire d'Avignon. Et donc, à cette occasion, on a tous les jours rendez-vous à midi au jardin Sécano, c'est gratuit, pas besoin de réserver, c'est ouvert à tous. Et on va retracer comme ça pendant toute la durée du festival ces 70 éditions-là avec les grands moments, l'histoire du festival, enfin voilà, tout un tas d'une commémoration à la fois festive et ludique de ce qu'est ce festival d'Avignon.
Et est-ce qu'il est prévu un gros projet pour la Piccola Familia pour la suite? Vous avez, je pense, la troupe a déjà pensé à la suite.
Eh bien, la suite, c'est que Richard part en tournée l'année prochaine, qu'il y a toujours Arlequin, Poli par l'amour qui est aussi en tournée, et que puisque nous venons d'achever, après 6 années, bientôt 7, de travail sur Shakespeare, cet énorme projet qui nous a tous sollicités, là on prend un peu de temps pour réfléchir à peut-être un autre gros projet, ou pas forcément gros d'ailleurs, parce qu'on ne va pas s'abonner, on va pas devenir les habitués des gros machins, mais en tout cas un projet, il y a une petite, pas une fatigue, mais il y a une... C'est normal, il y a la fin d'un cycle là avec la création de ce Richard derrière les Henri VI, et que j'ai envie moi de prendre, on a tous envie de prendre le temps de repenser un projet global pour la compagnie avec d'autres pièces. Il y aura d'autres choses, mais pour l'instant on ne sait pas trop quoi encore.
D'accord.
Voilà.
Mais écoutez, je vous remercie.
Merci à toi
de m'avoir pris du temps comme ça pour la radio, d'avoir un petit entretien. J'espère que tout ira bien pour la suite.
Mais il n'y a pas de raison, tout ira bien, c'est sûr.
Et que du coup, il y aura peut-être des projets possibles, peut-être la direction d'un théâtre, non ? Personne.
C'est pas.
Pouvoir ancrer vraiment ces projets dans.
Ce serait peut-être effectivement la. Enfin, une réflexion en cours. Après 10 ans de compagnie, la prochaine étape serait peut-être de diriger, de prendre la direction d'un lieu. Mais c'est aussi un questionnement qui doit aller de pair avec ce que sont les lieux aujourd'hui en France, et qu'est-ce que l'institution, et comment est-ce qu'elle peut aussi se renouveler, se réinventer. Elle doit, je le crois. Les modèles de centres dramatiques sont, parce que c'est ceux qui sont réservés aux artistes, sont à repenser. Peut-être qu'il faut lancer cette réflexion, ouais, certainement. En tout cas, c'est quelque chose qui m'exciterait.
Et donc, une dernière petite réflexion, et après, je te laisse faquer à tes occupations, sur le côté politique du spectacle, mais politique contemporaine. C'est-à-dire, pour Henri VI, moi, j'avais été impressionné en le voyant à la fin. après que tous les comédiens étaient complètement exténués, voilà, parler encore sur le mouvement des intermittents, dire son positionnement, mm-hmm. et ça a duré longtemps en plus, mm-hmm. hein, Henri VI, c'était pas une simple annonce comme on a eu.
Non, il était 4h du matin et on faisait des photos tous ensemble et tout ça, je me souviens.
Et donc là, on a eu aussi ça au Célestin, voilà, les comédiens prennent la parole à la fin pour expliquer. Voilà, ce qui se passe en ce moment.
La question d'Alma et Comrie, tout à fait.
Et donc, du coup, quel est le positionnement par rapport à ça?
Il est assez simple. On est des acteurs de théâtre. Le théâtre, depuis sa naissance, est né de la politique. Je dis la politique au sens étymologique du terme, polis, la cité. Le théâtre est relié à la cité, relié à son actualité, relié à la politique, à ce sens-là de politique, cité, citoyen. Donc nous sommes des acteurs de théâtre, mais nous sommes aussi des citoyens, comme ceux qui nous regardent. Il n'y a pas de différence entre nous tous, et nous vivons tous au même endroit, en même temps. À ce titre, nous avons tous, je crois, besoin d'abord de théâtre, enfin que le théâtre répond à un besoin, celui à la fois d'être ensemble et d'entendre des histoires, de se rassembler, de se sentir encore une fois vivant au même endroit en même temps, qui n'a l'air de rien comme petite phrase, mais qui est pour moi déjà un début de solution, et que donc les prises de parole peuvent être partagées, que nos positions là sur la loi El Khomri, le recours au 49.3, mais comme c'était le cas sur l'intermittence en 2014, et ce sera peut-être le cas aussi cette année si les choses ne vont pas mieux et on attend tous cette signature définitive de l'accord. à un moment donné, je crois que la scène est aussi un endroit où la cité peut se faire entendre, doit se faire entendre, et où les messages peuvent être entendus. La pièce, bien sûr, parle de politique, on en a parlé, c'est le démontage d'une ascension politique. Alors on peut démonter celle de... Shakespeare démonte celle de Richard III, mais comme aujourd'hui, et j'espère, ça donne des outils pour démonter les ascensions politiques de pas forcément d'ailleurs de monstres politiques comme seulement Marine Le Pen, mais aussi de tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques qui usent de stratégies électorales et voilà. Mais au-delà de ça, à un moment donné, on est communauté, et c'est pas parce qu'on regarde Richard III et que, bien que le projet soit en lui-même politique, on est tous en train de vivre des choses troublante, violente, questionnante en ce moment, et qu'il est bon de prendre la parole et de se questionner ensemble. Après, il faudrait aller plus loin. Il faudrait qu'on fasse du théâtre forum aussi. Il faudrait qu'on puisse inventer d'autres formes. Là, voilà, dans le temps qui nous était donné, on se dit que cette prise de parole était importante.
Bon, merci à toi de nous avoir accueillis dans ta loge pour cet entretien. Donc, c'était Raphaël pour Transistor.
Merci Raphaël, et merci et à bientôt.
C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre, donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
Nous serons amoureux, évidemment, le moins qu'on puisse, et pas toujours en silence, pénible, envahissant et indigne.
Regard intime.